Et donc, effectivement, je vais essayer, avant qu'on en débatte autour de vos questions, de vous montrer comment les écologistes, parce que ce n'est pas une affaire personnelle, hein, c'est une affaire collective, on s'est inscrit, comment on s'inscrit dans cette démarche pour la collectivité territoriale d'Alsace. Je crois que les écologistes, on a joué, on joue encore aujourd'hui et on jouera, je pense, dans les mois à venir. Un rôle, allez, j'ai pas peur des mots, majeur dans cette démarche pour le Conseil unique d'Alsace, parce que parmi les forces politiques en présence, l'écologie en Alsace, alors il y a d'autres moments où on se dit l'écologie n'est pas tout à fait en forme, ils se disputent entre eux, c'est la confusion, mais là, sur cette question de la perspective du Conseil unique, on est assurément la force politique en Alsace qui, depuis le tout début, a agi de façon rassemblée, il n'y a pas eu de voix dissonante, de façon cohérente et de façon constante dans cette grande affaire d'Alsace. Et je crois que cette place clairement lisible que les écologistes ont pris et prennent dans ce débat, je crois que ce n'est pas le fait du hasard, ça résulte naturellement, c'est le cas de le dire, du projet écologiste. Parce que l'écologie, c'est ce que j'avais déjà l'occasion de dire à certains d'entre vous quand j'étais venu, je crois, il y a 2 ans, l'écologie, elle est par nature décentralisatrice. L'écologie, elle est indissociable d'une forte idée régionale qui permettrait démocratie, efficacité pour l'action publique, en articulant d'une certaine façon les orientations stratégiques fortes que porte la région avec les initiatives, les déclinaisons concrètes que portent les territoires de proximité, qu'on les appelle les pays, les agglomérations, les intercommunalités. C'est-à-dire que les aspirations aux transformations concrètes qui sont portées pour les écologistes, par les écologistes, je pense transformations concrètes pour la transition énergétique, pour la mutation écologique de l'économie, pour les transports sobres, décarbonés, pour la sauvegarde et la reconquête de la biodiversité, toutes ces transformations concrètes, elles nécessitent une vraie république des territoires. Une vraie république des territoires fondée sur les principes d'autonomie, de coopération et de solidarité. D'une certaine façon, bon, moi qui suis écologiste depuis 1988, ce qui ne nous rajeunit pas, je crois que les écologistes, on est les mieux placés pour savoir que les grandes directives, les grandes orientations, les grands principes, les grandes lois, directives européennes, lois nationales, sont souvent vaines, même parfois contre-productives, si elles ne profitent pas, ces grandes orientations, ces grandes lois, d'un pilotage de proximité, d'adaptation locale pertinente, si elles ne profitent pas d'une dynamique territoriale résultant d'une bonne subsidiarité. Alors on a peut-être l'occasion de parler de ce que c'est qu'une bonne subsidiarité, parce que c'est un terme qu'on tarte à la crème aujourd'hui, comme l'a été le terme de proximité à l'époque de Raffarin, etc. Je peux citer quelques exemples de ces grandes orientations européennes et nationales qui ont vraiment besoin d'initiatives et de dynamique territoriale. Et quelque chose qui est encore tout chaud pour moi, parce qu'on est en plein dans ce débat aujourd'hui sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux au niveau de la nappe phréatique de l'Ille et du bassin du Rhin, il y a un principe qu'on connaît depuis la directive cadre sur l'eau, c'est pas d'aujourd'hui, qui dit qu'on ne détruit plus de zones humides essentielles. Il y a un autre principe que vous connaissez, vous l'avez entendu, principe européen sur l'énergie, c'est pour l'horizon 2020, 2020 c'est demain matin, il faudrait que dans notre consommation globale d'Européens, consommation énergétique, qu'il y ait 23%, donc à peu près un quart, d'énergie renouvelable. Autre principe dont on peut voir très concrètement en Alsace la difficulté à l'appliquer, il relève d'une directive européenne et il a été réaffirmé dans le Grenelle de l'environnement, c'est le principe qui veut que pour le même horizon 2020, de l'ordre de 20% de la surface agricole utile soit cultivée en agriculture biologique. Aujourd'hui, en Alsace, on a bien progressé, le niveau national il est 3,5, donc entre 3,5 et 20%, il y a de la marge, et ce n'est pas en 7 ans que ça va être parcouru. En Alsace, on doit être à 6, 7, ça dépend de la façon de calculer. Il y a encore du boulot. Un autre objectif qui aujourd'hui, non, quand je parle de contre-productif tout à l'heure, parce que sur les objectifs que j'ai cités, on avance. Par contre, contre-productif, c'est l'objectif pour les transports. L'objectif européen pour les transports, c'est qu'à l'horizon 2022, le quart des marchandises qui sont transportées en Europe ne le soit plus ni par la route ni par l'avion. Aujourd'hui, si vous voyez la façon dont les choses ont évolué depuis qu'on a affirmé ce principe, eh bien, elles ont au contraire régressé de ce point de vue-là. Parce que toutes ces belles intentions, elles restent largement vaines si les territoires n'agissent pas. C'est absolument pas par la logique jacobine, du décentralisation octroyée par l'État, que peut passer la transformation, les transformations que les écologistes attendent. Dans le cadre, je dirais, d'une mise en concurrence généralisée des territoires, dans le cadre d'une compétition des métropoles, d'un développement anarchique, intenable, qui creuse les inégalités entre les territoires, qui entraîne des gaspillages financiers, des gaspillages écologiques aussi, des ressources naturelles, cette logique jacobine, elle est à l'œuvre d'une certaine façon depuis des décennies. Et pour notre Alsace qui est étroite, qui est vulnérable, dont les atouts économiques ont été passablement malmenés ces dernières années, il est clair qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et là, il n'y a pas besoin d'être écologiste pour en convenir. Aujourd'hui, l'aspiration au renforcement régional, l'aspiration à l'optimisation des politiques publiques, à leur mise en cohérence, c'est une aspiration qui est largement acquise. Alors qui est largement acquise, je ne parle pas du grand public, je parle des élus locaux, je parle des praticiens de l'action publique, des acteurs associatifs, économiques, culturels, des commentateurs avisés. Je dirais parmi ceux-là, personne ne peut affirmer qu'il est satisfait pour l'Alsace du système actuel avec trois collectivités cloisonnées dont l'articulation avec les territoires de proximité est bien peu évidente. Je crois que personne aujourd'hui n'affirme sérieusement que l'éclatement institutionnel auquel, qu'on a aujourd'hui soit efficace et performant face aux enjeux des crises qu'on affronte. Alors, si les écologistes sont parmi les plus impatients d'un nouveau pacte institutionnel qui passerait ici par l'avènement de la collectivité territoriale d'Alsace, c'est parce que le projet écologique aussi, il nécessite de penser global, mais surtout d'agir local. Dans les territoires, il y a de formidables ressources d'inventivité, de solutions plurielles, de projets, d'expérimentation collective, on ne fonctionne pas tous et on n'avance pas tous de la même façon. Et donc ce potentiel, il trouve sa vitalité par son articulation aux cultures, aux histoires, aux spécificités locales, régionales. Voilà tout ce qui est étouffé par le jacobinisme. Voilà ce qui est sapé aussi par cette mise en concurrence généralisée de territoires qui sont incapables d'organiser coopération, solidarité, et qui génère, on le voit, les questions budgétaires des collectivités territoriales, un coût exorbitant, non seulement exorbitant, mais aussi très souvent inefficace pour les dépenses publiques. C'est-à-dire que les objectifs qu'on se fixe, les actions qu'on déploie, on se rend compte qu'on y consacre de l'argent, mais qu'on n'y arrive pas. Bon, alors oui, je ne vais pas vous insister là-dessus, vous l'avez compris, les écologistes d'Alsace, on est partisans, on est promoteurs du Conseil unique, donc de cette collectivité territoriale nouvelle qui fusionnera et remplacera les deux conseils généraux et le conseil régional, donc on va voter et faire voter oui. Alors pour bien vous faire comprendre notre rapport dans la jeunesse du projet, ce que nous en attendons, les problématiques et les enjeux qui sont devant nous, alors je crois que tout le monde n'a pas tout à fait en vue les différentes étapes, parce que les choses, on rentre à peine dans le débat. Il y a l'étape du référendum, il y aura ensuite celle de la loi spécifique sur l'Alsace, et puis il y aura aussi tout ce qu'il faudra anticiper, préparer, mettre en place pour, dans 2 ans, 2015, avant qu'une nouvelle majorité, peut-être, conduise la nouvelle collectivité. Donc pour bien faire comprendre toute cette démarche, je vais commencer par un retour en arrière. Alors, les écologistes, dès 2009-2010, ont été totalement opposés à la loi UMP, de réforme territoriale, qui en gros programmait l'émiettement des régions, qui mettait complètement à mal la parité homme-femme, programmait un scrutin binominal cantonal à tous les étages, d'une certaine façon, c'est-à-dire imposait le bipartisme. Nous, on était complètement révulsés contre le retour du jacobinisme, des tendances recentralisatrices, et aussi, parce que ça avait commencé par là, on l'oublie, la première réforme concernant les collectivités qu'a engagée le gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'était sur les questions fiscales, budgétaires, et là, c'est clairement un mouvement de mise sous tutelle budgétaire, donc engagé par la majorité sortante sous Nicolas Sarkozy. Mise sous tutelle dont la majorité actuelle a de la peine à sortir parce que les marges budgétaires n'ont pas radicalement changé. Donc pour nous, écologistes, on a donc saisi d'abord le projet du Conseil d'Alsace comme une possibilité d'échapper, en ayant un régime particulier, à ces trois méfaits principaux de la loi générale qui s'annonçait, c'est-à-dire la cantonalisation, l'absence de parité et la disparition complète de la proportionnelle. Ce qu'il y avait d'intéressant à l'époque en Alsace, c'est qu'on avait une certaine convergence politique, dépassant largement nos rangs à nous d'écologistes, pour que l'Alsace explore une voie originale pour échapper au régime commun, à droite et au centre-droit d'abord. Parce que les politiques alsaciens de ces courants, droite et centre-droit, sont en quelque sorte les seuls de toute l'UMP nationale à être concrètement impliqués dans la conduite d'une région. Une région, en plus, dont l'affirmation et le développement ont été, je dirais, conduits durablement par un président, le moins qu'on puisse dire, hors du commun, Adrien Zeller. Donc autant, d'une certaine façon, les responsables nationaux de l'UMP n'étaient pas trop chagrinés de l'affaissement programmé des régions, puisqu'elles sont toutes quasi à gauche, quasi toutes à gauche, autant j'ai jamais rencontré un responsable alsacien de droite qui me vante avec une vraie sincérité la conviction, les mérites de la réforme territoriale qui se serait appliquée si l'élection présidentielle s'était conclue différemment. Hein, que ça soit d'ailleurs dans les couloirs du Conseil régional ou à l'Association des régions de France, à l'ARF, Adrien Zeller faisait aucun effort pour dissimuler sa totale opposition avec la réforme Sarkozy, cantonalisation du fait régional. Son successeur, il a eu d'ailleurs une évolution assez significative, hein, puisque c'est le même Philippe Richert, qui était pourtant le ministre en charge de cette réforme, c'est lui qui l'a fait voter, c'est pas lui qui l'a préparé, hein, il a fait le vote final, c'est le même qui d'ailleurs, un de ses premiers gestes de président de région, c'était vraiment un geste de discipline politique vis-à-vis de l'UMP national, puisqu'il avait décidé de faire sortir l'Alsace, donc en quelque sorte s'affichant comme droitière de l'Association des régions de France. Alors que Adrien Zeller, dont je parlais tout à l'heure, c'était un des piliers de l'Association des régions de France, hein, avec Alain Rousset, Kéran, etc. Si les voix de la régionalisation étaient fortement portées, c'était par au moins ce trio-là. Bon. Eh bien, c'est ce même Philippe Richert qui s'est engagé dans la démarche du Conseil unique pour faire échapper l'Alsace à cette autre fusion complètement régressive qui aurait donné aux conseillers cantonaux le cumul automatique avec un mandat régional complètement vidé de sens politique. Et puis aujourd'hui, c'est cet ex-ministre de Sarkozy qui, j'étais au congrès de l'Association des régions de France au mois de septembre, je crois, ou octobre, à Lyon, c'était lui qui l'emportait haut la main à l'applaudimètre du congrès de l'ARF quand il décrit la démarche pionnière de l'Alsace du Conseil d'Alsace. Et ceux qui l'applaudissent, c'est un petit peu de front de gauche, énormément de socialistes, les écologistes qui sont là, c'est eux. Et d'une certaine façon, en retour, Philippe Richert ne se prive pas, il l'a fait d'ailleurs tout à fait ouvertement, devant les élus, à plusieurs reprises, en septembre, en octobre, de vanter sa satisfaction sur la façon dont François Hollande, Jean-Marc Ayrault, la ministre Lebranchu, engagent le travail avec les régions. Autrement dit, on a une UMP en Alsace qui était bien peu sarkozyste sur la question des régions. Parce qu'en gros, c'est bien beau de vouloir affaiblir politiquement les régions de gauche, mais la droite alsacienne n'était pas très enthousiaste à l'idée que l'Alsace soit aussi dans le lot des régions affaiblies. D'ailleurs, soit dit en passant, je me demande si certains aujourd'hui, en Alsace à gauche, ne reprennent pas, d'une certaine façon, le raisonnement sarkozyste de l'époque. On part en tête cette petite musique qui voudrait que pourquoi donc faudrait-il renforcer fortement le niveau régional avec la collectivité unique, si c'est pour que ça soit l'inoxydable majorité alsacienne qui en tire les bénéfices. Bon. On avait donc, je reviens en arrière, avant la présidentielle en Alsace, une gauche là, qui évidemment ne voulait pas de la réforme sarkozyste, et une droite qui préférait d'une certaine façon y échapper. Et puis aussi, un élément auquel on n'a pas fait trop attention, mais qui est très important, c'est que l'ensemble des élus régionaux et généraux, dans les deux départements, savaient qu'on avait un calendrier électoral complètement inédit, qui faisait qu'en 2014, en réalité ce sera 2015, les mandats de tout le monde arrivaient à échéance simultanément. Je vous rappelle que les conseils généraux se renouvelaient normalement par moitié. Ce calendrier électoral inédit, il était dû au fait que Sarkozy voulait mettre en place le conseiller territorial, qui était à la fois conseiller régional et conseiller cantonal. Donc cette convergence inédite, convergence politique et convergence, je dirais, mécanique du fait de la durée des mandats, a largement facilité les choses pour avancer. Donc depuis l'origine de la démarche, nous les écologistes, on a maintenu la même ligne qui était de dire le Conseil d'Alsace, ça réussira si sa mise en place s'effectue avec résolution, dans la clarté et dans le consensus. Sinon, ça capotera, ça s'arrêtera. Alors, résolution, chacun des deux congrès successifs, donc les congrès qui rassemblaient l'ensemble des élus des deux conseils généraux et les élus régionaux, ont adopté un texte, chacun des congrès, des textes qui ont permis de progresser en quelque sorte par cliquet, c'est-à-dire sans retour en arrière, sans régression. On a eu 101 voix pour au premier congrès, c'était en décembre 2011, 108 au dernier, c'était en novembre. Donc cette méthode de déclaration précise, avec des points clairement identifiés, un texte assez court, engageant le plus grand nombre, et même d'ailleurs le terme qui a été choisi de résolution, c'est le groupe des écologistes qui l'a proposé. Pour nous, être résolu, ça signifiait qu'on pouvait d'abord pas faire semblant de faire le conseil unique. On n'a pas voulu, nous écologistes, d'un simple rapprochement des collectivités existantes qui aurait été qu'une sorte d'ersatz de conseil unique. Rappelez-vous d'ailleurs ce que voulaient ceux qui ont en gros le plus de peine à en finir avec l'idée du département comme pôle de la politique territoriale. Ils ont d'ailleurs failli tout bloquer à un moment dans la première phase quand Büttner et ses amis ont organisé toute une série de réunions publiques dans le Haut-Rhin pour bien montrer qu'ils n'entendaient pas changer grand-chose. Ils parlaient alors, quand ils parlaient de Conseil d'Alsace, de rapprochement entre les trois collectivités. Ils parlaient éventuellement, par moment, sur certains grands sujets, d'une gouvernance par congrès, mais d'une gouvernance. Il ne s'agissait pas de l'élaboration de la démarche du Conseil unique, il s'agissait du fonctionnement normal. Et puis surtout, absolument pas question d'employer le mot de fusion. À l'époque, dans cette première phrase, avant le premier congrès, il y avait guère en Alsace que nous les écologistes, Joe Spiegel et ses amis, pour employer publiquement et positivement ce terme. Mais il y avait aussi la loi. La loi, parce qu'un régime spécifique n'était possible qu'en cas de fusion. Donc, on est donc arrivé, parce qu'il fallait bien s'engager dans l'opportunité légale, à ce que le congrès du 1er décembre 2011 tranche pour une collectivité nouvelle en lieu et place des trois anciennes. D'ailleurs, assez amusant de retrouver le texte de cette première résolution, parce qu'on tourne autour du mot fusion, sans oser le préciser, en disant que c'est tel que le prévoit la loi que l'on fera le rassemblement, enfin, qu'on fera la collectivité unique, tel que prévoit la loi, on regarde la loi, il y a marqué fusion. Bon, c'était bien, c'était ce que nous on voulait. Ensuite, pour que ça avance, il a fallu, je dirais, d'une certaine façon, que la majorité UMP renonce, et ça n'a pas été facile pour elle, à imposer son projet politique. Parce que la tentation aurait été évidemment complètement forte pour elle de profiter de l'avantage qu'elle avait acquis de ses victoires au régional 2010 et confirmé au cantonal de 2011. Rappelez-vous les cantonales de 2011. On n'imaginait pas que le Bas-Rhin bascule, mais beaucoup pensaient que le Haut-Rhin pouvait basculer. Et Büttner n'était pas sûr d'être élu, il a dû affronter un deuxième tour, etc. etc. Bien. J'aurais pu profiter de cet avantage pour emballer le projet institutionnel de Conseil unique avec les orientations politiques de l'UMP, avec les objectifs politiques de l'UMP, avec les politiques validées par les électeurs 2010-2011, et puis dont ils espèrent qu'elles seront reconduites au prochain scrutin régional. Alors s'ils avaient opéré une confusion de cet ordre, ils auraient eu une majorité. Ça, on leur avait caché, c'était évident, tout le monde le savait, plus courte. Mais ça aurait évidemment écarté tous les socialistes et évidemment les écologistes. D'ailleurs, cette tentation, Charles Büttner y a cédé dans un vote particulier, qui a eu lieu dans son seul conseil général, ce qui a d'ailleurs entraîné la rupture avec la seule femme de son exécutif, parce que ce n'est pas très paritaire, les conseils généraux, Brigitte Klinkert. Mais d'une certaine façon, il l'a fait gratuitement, puisque ça portait plus à conséquence, parce que l'essentiel avait été fait auparavant au Congrès, où nous, les écologistes, on avait obtenu que soit retiré du vote du Congrès ce fameux texte de 25 ou 30 pages qu'on appelait « Projet stratégique pour l'Alsace » et qui reprenait, en gros, les objectifs propres à la majorité de l'UMP actuelle. On y retrouvait les adaptations locales du droit du travail, hein, ce qui a d'ailleurs beaucoup chiffon rouge pour les milieux syndicaux, le développement maximum de l'aérien, celui des TGV dans n'importe quelle condition envers et contre tout, le retour du grand canal à grand gabarit, ancienne mouture, des investissements autoroutiers à tout va, et puis l'idée de compétition entre les régions, et donc qu'il fallait faire la collectivité unique, parce qu'il fallait, en gros, donner le pion aux autres. Ce texte n'a pas été voté par le Congrès, il a eu le soutien d'une petite majorité du Conseil général du Haut-Rhin, donc il n'engage pas les élus d'Alsace, il ne fait pas partie d'un pacte global pour le Conseil unique. C'est ce que nous, on voulait les écologistes, c'est ce qui a permis de continuer à avancer dans un large consensus. Ensuite, je dirais, le troisième écueil qui s'est présenté devant nous, c'était l'échéance nationale. C'est-à-dire, le résultat de l'élection présidentielle ayant changé complètement le paysage politique national, ça aurait pu stopper la démarche alsacienne. Parce que, en effet, la droite alsacienne, la droite régionale, a peut-être quelques raisons, maintenant, de redouter la perspective nouvelle que la loi spécifique sur la collectivité unique soit écrite et votée par la majorité socialiste et ses alliés écologistes. Hein, ils étaient plus sereins quand ils pensaient que la plume de la loi serait celle de leur ministre Philippe Richert. C'est d'ailleurs cette inquiétude à droite, on l'entend tout à fait clairement aujourd'hui dans les déclarations de Charles Büttner, hein, qui nous explique maintenant ses difficultés, en gros, à signer un chèque en blanc par le référendum. Hein, on va dire oui sans savoir quelle sera la loi. Bien. Mais à gauche aussi, on pouvait être tenté de retirer ses billes après le résultat de la présidentielle. Parce que le fameux acte 3 de la décentralisation au plan national, pour toutes les régions, pour tous les départements, qu'on nous promet, est-ce qu'il ne pourrait pas, cet acte 3, s'avérer satisfaisant en Alsace, pour bon nombre de responsables de gauche, en plus, bon nombre de responsables de gauche qui n'envisagent pas véritablement la perspective d'un basculement politique régional en Alsace, hein, et qui sont bien plus impliqués, bien plus concernés par leur périmètre politique à eux, communaux, municipaux, intercommunaux. C'est d'ailleurs à peu près ce que disent clairement les deux parlementaires strasbourgeois de gauche, Philippe Bis et Armand Jung, qui ne sont pas au fond, quand on regarde bien ce qu'ils disent, hein, c'est des fois un peu compliqué parce qu'ils y vont un peu à l'emporte-pièce, hein, mais qui ne sont pas au fond complètement opposés à l'idée d'un conseil unique, mais qui préféreraient que cette démarche s'engage posément, sans précipitation. Éric Elkoubi à France Bleu, il répétait, mais 5 fois, c'est prématuré. C'est prématuré. En gros, il faudra voir, après que le gouvernement et ses assemblées aient bien fait leur réforme nationale, après qu'ils aient bien reconstruit, parce que c'est nécessaire, les découpages et les mobs de scrutin, ouais, ça serait très bien ça, mais le problème, c'est que ça signifierait tout simplement que la mise en œuvre réelle de la fusion, elle est reportée à l'horizon 2020, c'est-à-dire à l'échéance d'après, de renouvellement des régions. Ces nouvelles façons de voir, hein, inquiétude pour une partie de la droite, l'envie d'une partie de la gauche de se dire, pff, maintenant qu'on sait qu'on a échappé à la réforme sarkozyste, franchement, pourquoi s'endetter ? Ces nouvelles façons de voir donc, qui résultent de la présidentielle, elles ont fait des dégâts, mais elles n'ont pas enrayé la démarche. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. D'abord, la démarche était trop nettement engagée, je dirais, pour que des arrière-pensées politiciennes aient la force de l'arrêter. Et puis ensuite, et ça c'est essentiel, c'est que la démarche alsacienne intéresse particulièrement au plan national et dans beaucoup d'autres régions. D'ailleurs, le président de la République, avant même d'être élu, avait clairement indiqué son choix favorable, hein, sur la question du Conseil d'Alsace. Il y a le gouvernement, il y a les responsables des groupes parlementaires, Sénat, Assemblée, qui ont manifesté leur volonté de faciliter les choses. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres régions qui suivent tout à fait avec intérêt la démarche alsacienne, qui passe un petit peu pour, comme pionnière d'une dynamique possible de cet acte 3 de la décentralisation, qui serait l'idée de tenir des conférences régionales des pouvoirs locaux, qui seraient appelées à convenir pour chaque région, comme ils l'entendent, des façons spécifiques, différenciées, la façon de répartir les compétences, voire éventuellement des expérimentations, peut-être des fusions envisagées pour la phase d'après. Donc, l'idée qui figure d'ailleurs dans l'accord entre le Parti Socialiste et les Verts, et qui a été reprise dans le discours du président de la République au Sénat après le grand débat animé par les sénateurs dans les différents départements sur la réforme territoriale, cette idée en gros que cette fois-ci, alors ils n'emploient pas le mot de fédéralisme différencié, hein, on n'en est pas là, mais qu'en gros, cette idée jacobine que la décentralisation c'est la même chose pour tout le monde, hein, ben non. Non, l'idée de conférence régionale des pouvoirs locaux, c'est de mettre en face l'État, tous ceux qui s'occupent de politique publique sur le territoire régional, et de voir comment on peut adapter, comment on peut monter les choses, ce qu'on peut envisager, ce qu'on peut demander pour être bon, etc. Et donc l'Alsace, dans cette dynamique-là, eh bien, c'est quelque chose, en quelque sorte, dont on peut s'inspirer. On a besoin surtout de modèles positifs, parce que vous savez bien que, aujourd'hui, l'acte 3 de la décentralisation, il n'est pas encore vraiment en place. Hein, on a tous à peu près compris que de grandes avancées généralisées seront en gros hors de portée, donc ça risque d'être un peu décevant. La majorité a de la peine à arbitrer entre les départementalistes qui mettent leur veto à trop de changements allant dans le sens des régions, les régionalistes qui évidemment ne sont pas d'accord, entre ceux qui sont, je dirais, les tenants du rayonnement des grands pôles urbains, hein, quand vous entendez le maire de Lyon, Colomb, il ne dit pas du tout la même chose que le président de la région Rhône-Alpes, Kéran, donc il y a les tenants du rayonnement, du développement des grands pôles urbains, et puis ceux qui sont plutôt les promoteurs de l'équilibre et de l'égalité des territoires. Il y a aussi, on l'a vu avec la commission Jospin, vous rappelez, hein, il paraît qu'au dernier moment, alors que sa commission unanime quasiment était pour le mandat unique, hein, il a corrigé. Et donc il y a ceux qui veulent vraiment rénover le statut de l'élu et de l'exercice des mandats contre ceux en gros qui voudraient prolonger encore un petit peu le régime du cumul des mandats. Hein. Cumul de mandats qu'on trouve en gros de trois sortes. Il y a le cumul que j'appelle vertical des mandats, c'est celui qui pose problème aujourd'hui fortement à une série de parlementaires qui aimeraient bien garder leurs responsabilités dans un exécutif local. Seulement le problème, c'est que ça fait des parlementaires qui sont simplement des lobbyistes de leur territoire à l'Assemblée, qui ne sont absolument plus des législateurs. Vous avez les cumuls horizontaux, qui font aussi du mal au fonctionnement de la démocratie, mais qui résulte aussi d'un système qui veut que les intercommunalités ne sont pas élues au suffrage universel. Ce qui fait d'une certaine façon, ça incite naturellement au cumul d'un exécutif de mairie avec un cumul d'un exécutif d'intercommunalité. Mais ça pose toute une série de problèmes, de conflits d'intérêts, et puis aussi de disponibilité, tout simplement. Et puis, troisième cumul dont on parle très peu en France, encore qu'on a avancé là-dessus, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le président de la République, il n'a pas le droit de faire plus de deux mandats. C'est le cumul dans le temps. Ce qui est vrai pour le président de la République pourrait peut-être l'être pour, au moins pour les grandes villes, pour les grandes intercommunalités, pour les grandes collectivités territoriales, au-delà de la responsabilité deux fois consécutive d'un exécutif de cet ordre, ça devient des fonctionnements qui sont pas tout à fait bons pour le renouvellement et pour la vitalité de la démocratie. Bien. Donc dans ce contexte, un peu compliqué d'une réforme territoriale qui s'annonce pas évidente, la démarche alsacienne, elle a donc un fort écho national, et c'est pourquoi je dirais la gauche gouvernementale s'est en quelque sorte engagée pour le succès de la démarche. Ce qui veut dire que le refus du Conseil d'Alsace à gauche, hein, qui est incarné par celui tout de suite, dès les premières réunions, on a fait sa spécialité. Non. Je veux parler du conseiller général, vice-président de la CUS, maire de Schiltigheim, Raphaël Nizan. Son refus du conseil unique à gauche n'a jusqu'ici pas trouvé de relais dans son gouvernement. Hein. Et j'espère bien qu'au ministère, à l'Assemblée et au Sénat, cette disposition à faciliter la démarche de la collectivité va se maintenir. Et j'espère, ça sera quelque chose d'important à suivre, que les trois parlementaires alsaciens de gauche, il y en a trois, hein, Patricia Schillinger, sénatrice, et puis nos deux députés, Philippe Bis et Armand Jung, j'espère qu'ils sauront, pendant la phase d'élaboration et de décision législative, être à la hauteur de l'enjeu. Parce que c'est cette phase d'élaboration et de décision législative qui va être déterminante. Le référendum, pour lequel tout le monde va se passionner, il donnera un feu vert ou un feu rouge. Mais tout ce dont les uns et les autres commencent à débattre, et vont débattre de plus en plus, tout ce dont on discute, tout ce qu'on critique, tout ce qu'on propose aujourd'hui, et qui va peut-être déterminer le vote de toute une série de personnes, tout cela ne sera fixé qu'après, bien après le 7 avril. Ça sera fixé pour une part par le législateur, et pour une autre part, pour une bonne part d'ailleurs, par la future majorité régionale du futur Conseil unique à partir de 2015. Le référendum, il peut juste donner un feu vert, mais il ne décidera rien. C'est d'ailleurs, et c'est ça qui est un petit peu énervant et rageant, si on veut être lucide et honnête, la réponse décevante, évidemment, et un peu systématique, qu'il va falloir faire à ceux qui s'interrogeront tout à fait à raison sur toute une série de questions. Par exemple, le siège de la collectivité, la séparation du délibératif et de l'exécutif. Quelles seront les compétences, les compétences fusionnées, là la réponse est assez claire, mais les compétences nouvelles qui seront transférées, les éventuelles compétences spécifiques à l'Alsace, que d'autres régions n'auraient pas et que l'Alsace pourrait avoir, l'organisation et le volume des services, des ressources humaines de la collectivité territoriale, l'organisation des instances territoriales de concertation, on parle des conseils de territoire de vie, les modes de scrutin pour fabriquer cette assemblée d'Alsace. Le nombre total d'élus, c'est une question qui est en débat. Est-ce que c'est moins 10, moins 20%, est-ce qu'il faut les diviser par 3, est-ce que, etc.
On demande de dire oui à la mariée, mais on ne sait pas qui elle est, la mariée.
Tout à fait, on ne sait pas tout à fait quel sera le régime du contrat de mariage. L'éventuelle capacité réglementaire de la future collectivité, les moyens financiers, humains, logistiques, les économies d'échelle, possible ou non, la place de Strasbourg, celle de Colmar, celle de Mulhouse, les éventuelles conférences départementales, dont on évoque la place, le rôle du Conseil économique, social, environnemental, régional. Et puis bien sûr, ce qui intéresse peut-être le plus les électeurs, c'est quel projet, quel programme politique, quel changement concret pour le quotidien, pour répondre à la crise, pour préparer l'avenir. En gros, les réponses à toute cette série de questions, dont toute une partie sont évoquées dans le document que vous aurez d'accompagnement avec les deux bulletins de vote dans l'enveloppe, les réponses, elles ne seront pas dans le référendum, on trouvera des suggestions, on trouvera des propositions dans la notice explicative, et des propositions dont vous verrez qu'elles sont toutes au conditionnel, parce qu'on n'a pas à dire au législateur ce qu'il doit faire, bien. Et puis il y aura des propositions, des suggestions dans les documents, dans les discours, des différents courants politiques. C'est pas par le référendum, donc on tranchera sur tous ces points, ce sera par la loi, ou par ce que voteront ensuite les futurs élus qu'il nous faudra élire en 2015. Donc nous les écologistes, on va s'efforcer dans cette campagne d'aller à l'essentiel, de ne pas raconter d'histoire, de dire ce qui sera possible, ce qui sera souhaitable, et ce qui restera à faire. Donc ce qu'on va dire évidemment d'abord, c'est que par la fusion régionale de ces trois grandes collectivités en une seule, en renforçant, en mettant en cohérence ces compétences, déjà l'Alsace aurait des leviers bien plus puissants qu'aujourd'hui. Alors c'est des leviers qui sont nécessaires, en pas dire aux gens que si le oui l'emporte d'un seul coup les politiques vont se transformer, ça serait complètement faux et se moquer du monde, hein, surtout que pour que nous on soit aux manettes, il faut au mieux attendre 2015, hein, et encore, il n'est pas évident qu'on participe et qu'on gagne. Donc ces leviers, ils sont nécessaires pour s'attaquer donc à toutes ces fractures qui s'aggravent et en plus, avec une Alsace qui n'est absolument pas épargnée ces dernières années, on a un chômage à un niveau dans certains quartiers qui est effarant, on a des poches de pauvreté tout à fait réelles, importantes dans le rural, on a, si on regarde la carte du surendettement des ménages dans des zones périurbaines, on en arrive à des points qui sont complètement intolérables. On a, bien que notre Alsace soit une Alsace urbaine avec un tissu tout à fait serré, on a quand même des carences d'accès aux services publics qui se font jour. Hein. Du côté de certains fonds de vallée, on a des difficultés du point de vue des services médicaux. Donc autant de défis qui nécessitent en gros des réponses, des actions adaptées au plus près des territoires. Ce qu'on va aussi dire, c'est que l'Alsace serait idéalement placée pour mettre en œuvre la nouvelle capacité réglementaire régionale que le gouvernement annonce. Alors je ne sais pas si le gouvernement aura le courage de ce basculement, mais en gros, de quoi il s'agit ? Alors ça va être un peu compliqué à expliquer, un peu difficile, parce qu'il faut être pédagogue et les gens n'aiment pas trop les mécanos institutionnels, mais en gros, il s'agit de permettre, capacité réglementaire, l'adaptation locale, évidemment, lorsque l'intérêt général le justifie, sinon on ne respecte pas la Constitution, en tenant compte des spécificités du territoire. En gros, il s'agit de sortir, et c'est là qu'est attendu le troisième acte de la régionalisation. Hein. Il y a deux points où c'est attendu, sur la question... en gros, des finances des collectivités territoriales, et sur la question, sur la question du réglementaire. Parce qu'il s'agit de sortir de cette impasse tout à fait bien française, qui fait que dans des tas de domaines, l'administration centrale, elle réglemente, mais sans mettre véritablement en œuvre. Sans assurer, sans avoir les moyens, sans avoir la volonté, les outils pour assurer l'exécution sur le terrain. Ce qui veut dire qu'en gros, en toute irresponsabilité. C'est pas moi qui ai inventé le terme, hein, je crois que c'est Roussel qui disait ça dans le congrès de l'ARF. On a une administration centrale qui, pour l'essentiel de ce qu'elle réglemente, écrit en toute irresponsabilité. Bien. Notamment sur pour les politiques publiques environnementales, on voit vraiment ce blocage. En gros, il s'agirait de s'en libérer en permettant aux régions d'appliquer leurs décisions et de décliner dans leur périmètre, dans leur champ, les politiques européennes et nationales. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec les exemples. Il ne s'agit pas de défaire la République, parce que j'en entends déjà, c'est l'autonomie, c'est fini, la République en miettes, etc. Il s'agit au contraire de consolider la République en donnant aux régions leur part de pouvoir public. Alors bien sûr, ça ne peut pas concerner n'importe quelle compétence. Par exemple, la compétence du droit du travail, elle est de compétence nationale, et c'est très bien comme ça. Elle est en plus protégée parce qu'elle fait partie du bloc de constitutionnalité. Donc on ne se raconte pas d'histoire en imaginant que parce qu'une majorité libérale aurait le pouvoir en Alsace, elle pourrait se permettre de réglementer dans le domaine du droit du travail. Non, c'est faux. Quand on a un accord qui est signé sur le périmètre de l'Euro-Airport ou dans ce secteur-là, qui est-ce qui signe ? Qui est-ce qui signe ? Eh bien, même au niveau suisse. C'est la Suisse qui signe, parce que c'est la compétence du droit du travail, c'est la Suisse qui l'a. C'est le niveau, c'est au-dessus, hein, c'est l'herbe. Au niveau français, évidemment, c'est le gouvernement. Hein, et c'est une bonne chose que le droit du travail soit de compétence nationale, et ça doit le rester, en tout cas, tant que les garanties solides de l'Europe sociale ne sont pas encore établies. Parce qu'évidemment, on espère qu'un jour, le dumping social, on en aura fini au niveau européen. Ensuite, ce que nous dirons, c'est que le Conseil d'Alsace, il sera fort avant tout de ses compétences. Alors les compétences, il va y en avoir trois catégories. Il va y avoir déjà le rassemblement des compétences des anciennes collectivités, je vous le fais vite, développement économique, action sociale pour le département, formation, c'est pas toute la formation, elle est pédagogique, formation continue, etc. La gestion qu'on a déjà en Alsace des fonds structurels européens destinés au développement des territoires, c'est pas une mince affaire. Les bâtiments, des lycées et collèges, leur personnel technicien ouvrier de service, c'est d'ailleurs assez amusant de se rappeler les hurlements qu'on entendait à l'époque de cette décentralisation des responsabilités de l'hébergement, de l'accueil, de l'entretien, des cantines, des internats, des bâtiments des lycées avec les et des collèges et des personnels qui vont avec. Hein, on nous disait, c'est la fin de tout, ces personnels vont être en miettes, vont être cassés en morceaux, ça va être des petits potentats locaux qui n'en ont rien à faire du service public d'éducation, etc. Voilà, attendez, les collectivités territoriales, c'est aussi la République, c'est aussi des élus. C'est aussi la fonction publique territoriale, elle est tout à fait capable d'être efficace et quelquefois d'en montrer à la fonction publique d'État, aujourd'hui, ce qui est significatif. Hein. Rappelez-vous les tracts, je le disais tout à l'heure, du Front de Gauche. Le Front de Gauche était candidat partout aux législatives. Est-ce qu'il demandait le retour des taux? Est-ce qu'il demandait de revenir en arrière sur cette décentralisation? Non, pas du tout. Hein. Donc ce qui montre bien que même les plus virulents ont compris qu'aujourd'hui c'est acquis et c'est une bonne chose, cette décentralisation des personnels, et que ce n'est pas nécessairement parce qu'on décentralise qu'on fiche en l'air la République. Bon, compétences de transport et des compétences d'aménagement du territoire, d'environnement, de tourisme, de culture, de sport. Ensuite, il y a un deuxième bloc. Le deuxième bloc, c'est l'élargissement des compétences que devrait permettre la réforme nationale en préparation. Alors là, c'est pas tout à fait encore sûr, c'est pas tout à fait calé, mais en gros, on devrait confier aux régions l'ensemble des attributions qui sont encore celles de l'État en matière d'orientation, orientation scolaire, de formation professionnelle et de mise en cohérence des politiques de l'emploi au niveau territorial. Donc ça, c'est un bloc important parce que c'est ce qui permettrait de mettre un petit peu en efficacité l'ensemble orientation, formation, emploi. Bien. Autre bloc de compétences, renforcement de compétences qui devrait arriver, c'est placer les régions comme pilotes de la mise en cohérence de l'aménagement du territoire, de la transition énergétique et nous, écolos, on l'espère, de la transition écologique, en coordination évidemment avec les intercommunalités. Troisième catégorie, c'est que le Conseil unique ou la collectivité territoriale d'Alsace va sans doute avoir des compétences spécifiques. Et par exemple, celle qu'on cite tout de suite en premier, ça va de soi, hein, personne ne la discute, c'est la compétence culture régionale et bilinguisme. Évidemment, la première spécificité de l'Alsace qui justifierait une compétence spécifique, c'est sa double culture. Et donc, il s'agit d'avoir une compétence et des moyens pour une reconquête du bilinguisme. Alors là, mon pari, j'ai lu attentivement le papier mon pari, effectivement, c'est que l'attribution de cette compétence-là amènerait la collectivité unique à s'engager dans une vraie politique, pour faire bien mieux que ce que les trois collectivités séparées aujourd'hui font de façon assez peu résolue, franchement, pour, par exemple, mettre en œuvre une convention qui pourtant est une convention rabais avec l'autorité académique. C'est clair que moi, j'ai fait partie à la région de la commission formation initiale à l'époque de Stössel, hein, qui s'appelait formation initiale et, langue et culture régionale. Hein. Aujourd'hui, ça a basculé à une autre commission. Autant à l'époque de Stössel, je veux dire, il était capable de taper du poing sur la table et d'ailleurs de ne pas voter la convention à l'époque. Hein. Autant aujourd'hui, ça a complètement disparu du radar régional. Hein, au point qu'au moment où au moment où elle a engagé le bras de fer avec cette espèce de formule au rabais de bilinguisme,
Renseignez-moi pour
les élus régionaux qui normalement devaient être en confrontation avec elle apprenaient cette affaire parce qu'on la dénonçait à la séance d'après, quoi. Mais sinon, ils n'étaient même pas au courant. Bien. Donc, trois blocs de compétences, les compétences fusionnées, les compétences nouvelles que toutes les autres régions ou départements auraient aussi, grâce à la réforme territoriale, et puis compétences spécifiques. Donc évidemment, toutes ces responsabilités, ces compétences, ça nécessitera des moyens. D'ailleurs, Gilbert Meyer, le maire de Colmar, s'est fait une spécialité de le rappeler, de le marteler, attention, il a fait des pages d'opinion, au groupe projet, pas de transfert sans moyens supplémentaires, etc. Il y en a aussi Pierre Fralburger, par exemple, le conseiller général de Mulhouse, qui s'inquiète d'une hypothétique nouvelle taxe, une taxe spéciale Conseil d'Alsace. Là-dessus, il faut être clair. Il ne peut pas être question de taxer les Alsaciens de façon supplémentaire et discriminatoire sous prétexte qu'ils auraient une collectivité territoriale à eux. Hein, parce qu'en fait, c'est toutes les régions. C'est toutes les régions qui ont besoin, non pas de taxer davantage vos concitoyens, mais d'avoir une fiscalité dynamique, voire même peut-être, d'autres pays de l'autre côté du Rhin le pratiquent, un droit constitutionnellement garanti à une part de l'impôt national. Hein. Parce que toutes les régions, c'est toute leur difficulté des régions, Adrien Zeller connaissait bien la problématique, on a besoin d'une dynamique fiscale qui soit connectée à nos compétences majeures, notamment la compétence du développement économique, la compétence de la formation. Hein. Aujourd'hui, le sac de nœud de la taxe d'apprentissage, qui, par les bienfaits de Bismarck, font qu'on en a deux fois moins, nous, pour assurer l'apprentissage que la France de l'intérieur, hein, faut le dire, hein. Les patrons payent deux fois moins, hein, globalement, je vous passe les détails, hein, et c'est pas évident de changer ces choses-là. Donc, avoir une fiscalité dynamique connectée sur les compétences majeures, développement économique, formation, transport, hein, regardez les difficultés qu'on a, depuis 2005, décembre 2005, le législateur a décidé qu'il y aurait une taxe expérimentale sur les camions en compensation enfin, de la LKV-MOT, en quelque sorte, et des effets pervers de la LKV-MOT. Déjà, vous voyez la capacité de l'Alsace à se faire respecter, hein, comme aucune collectivité n'est vraiment en charge de cette affaire-là. La promesse du Grenelle, qui prévoyait, Grenelle prévoyait pour 2009 la taxe camion pour tout le pays. L'Alsace, un cran d'avance. En réalité, on aura peut-être en avril quelques semaines pour du beurre, d'après ce que j'ai compris, hein, dont on ne sait d'ailleurs pas vraiment tout à fait bien comment ça fonctionnera et qu'est-ce qui viendra dans les recettes des collectivités. Hein. Si juste à un moment, ils nous avaient inventé une avance sur recette, c'était quand il fallait financer le GCO. Voilà. Et donc dans le financement et dans la part des collectivités qu'elles payaient pour le GCO, il y avait en quelque sorte une avance des recettes issue de la taxe poids lourd. Donc, développement économique, formation, transport et aménagement. Il y a les départements, parce que notre fusion, ça va être la fusion des compétences du département et de la région, qui eux, surtout les départements qui sont très frappés par la dégradation de la situation sociale, et la situation sociale s'est passablement dégradée à toute vitesse dans le Bas-Rhin comme dans le Haut-Rhin, les gens qui émargent au RSA, ça a explosé les chiffres, et donc il y a un fossé qui s'élargit et qui explique que nos départements ont de vrais problèmes d'endettement passablement importants. Il y a un fossé qui s'élargit entre le coût de leurs compétences en solidarité et leurs ressources. Donc l'Alsace aura donc, comme toutes les autres régions et départements, tout intérêt à ce que l'acte 3 annoncé de la décentralisation se traduise, et ça, ça nous semble très important à nous écologistes, par la mise en place d'une loi de finances de l'égalité territoriale. C'est-à-dire un petit peu comme ce qui se pratique tous les ans pour la sécurité sociale, où il y a une concertation et un vote avec une garantie votée par le Parlement, la loi de finances de la sécurité sociale, et bien une loi de finances et de l'égalité territoriale qui serait concertée entre régions et l'État, qui fixerait les plafonds, les planchers pour les impôts et les taxes locaux, qui validerait éventuellement les nouvelles taxes, notamment celle de la fiscalité écologique appelée à remplacer la fiscalité qui pèse sur le travail. On sait que nos copains socialistes ne sont pas très pressés pour ça, hein, il va falloir les accélérer un petit peu aussi, et puis qui déterminerait, très important, le mécanisme de péréquation territoriale. Parce qu'on ne peut pas laisser des écarts considérables entre régions riches, régions pauvres, collectivités riches, pauvres, sans qu'on n'y comprenne rien. Bien. Donc une démarche de cet ordre de clarification, de cohérence pour les ressources des collectivités, ça serait véritablement un pan essentiel d'un nouvel acte de la décentralisation. Parce que s'il y a un domaine dans lequel on voit bien que la France n'est pas véritablement un pays décentralisé, c'est en matière budgétaire. Aujourd'hui, quand on essaie de comprendre comment fonctionnent le financement et les dotations par l'État des collectivités, c'est incompréhensible. Hein. Alors, une remarque là-dessus, sur ces questions de finances, qui concerne le rapport, je dirais, entre les collectivités territoriales avec le monde associatif, culturel, sportif, etc.